On ne sait où il habite, on l'appelle la marmite. Ce n'est pas un apprenti migrant, c'est un joyeux vagabond. En attendant qu'on lui serve dans sa boîte de conserve.
Tranche de vie, petit voyage à travers nos existences.
Il s'en va, il reste d'un repas. Et bien vite, la marmite, près du feu qui lui réchauffe un plat de roi. Quand midi sonne, oublie les hommes, oublie la vie dans une samba frénétique.
Chers amis de Tranche de Vie, je suis aujourd'hui dans le joli bourg de Champsvinel et je suis venu à la rencontre de l'aventure. L'aventure, elle est incarnée par Claude Philippon, qu'on pourrait définir comme un baroudeur de l'humanitaire, après avoir été aussi un baroudeur, un amateur de sensations fortes. Il va nous raconter sa vie et ses actions récentes en faveur de l'humanitaire. Claude Philippon, bonjour. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs un petit peu quel a été votre itinéraire personnel, professionnel, jusqu'à ce que vous preniez votre retraite?
Oui, bonjour d'abord à tous les auditeurs. Et puis, par où commencer? Parce que c'est assez difficile. L'humanitaire, j'y suis rentré dedans il y a une trentaine d'années par le canal de mon frère qui était transporteur et à qui on avait demandé semi-remorque pour aller à l'époque de la Révolution en Roumanie. Et nous sommes partis ensemble parce qu'il fallait conduire à deux, jour et nuit pratiquement, oui. Pratiquement jour et nuit. Et nous sommes allés à Brasov, à Sachel, à côté de Brasov, amener des vivres, des vêtements, pas mal de choses, quoi, de la pharmacie. À l'époque de la Révolution, quand on a, exterminé Ceausescu, on était sur place avec mon frère en plein hiver là-bas. Ça a commencé comme ça, et puis après, je me suis investi un peu tout seul là-dedans, parce que ça m'avait plu de rendre service. Ensuite, on est allé aussi avec mon frère, qui est sur Miromorque, au Kosovo, pendant les événements. Donc, j'ai vécu pas mal de choses à chaud et en direct, et ça m'avait un petit peu interpellé de voir tous ces gens-là, que ce soit au Kosovo, en Roumanie, au Kosovo, ils étaient sous des tentes en plastique, il pleuvait, les gosses dans la boue. Et puis comme j'ai eu la faculté de pouvoir récupérer des ambulances assez facilement, comme j'avais un contact un peu privilégié avec les pompiers, je me suis dit, tiens, des ambulances, je suis allé beaucoup de fois en Afrique, une vingtaine de fois, dans une vingtaine de pays, et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de véhicule de secours quand il y avait des accidents, choses comme ça, et puis je me suis dit, tiens, je vais m'investir dans les ambulances et amener les ambulances en Afrique. C'est parti voilà. Un peu de là.
Alors voilà, voilà beaucoup de choses. Et depuis 30 ans, alors j'ai sous les yeux une liste des pays où Claude est allé convoyer ses véhicules. Le Mali, la Roumanie, dont il vient de nous parler, le Kosovo, l'Albanie, la Mauritanie, le Burkina Faso, l'Afghanistan, l'Inde, l'Estonie, la Tanzanie, le Maroc, le Togo, la Moldavie pour finir, tout récemment. Voilà donc un beau tableau de chasse. Hein. Mais Claude, avant de vous investir il y a 30 ans dans l'humanitaire, que faisiez-vous?
Alors, j'ai travaillé dans le bâtiment et j'étais conducteur de travaux dans une entreprise moyenne de la région, là. Ce qui m'a mené d'ailleurs à conduire les travaux du centre de secours qui est à côté de la piscine, à Périgueux, là, comme conducteur de travaux. Donc ça m'a encore favorisé des contacts avec les pompiers qui me donnent relativement facilement des ambulances. Ça nécessite d'avoir une association, ça nécessite un tas de papiers, on ne donne pas des ambulances comme ça, et il faut notamment avoir une association humanitaire. On ne donne pas les ambulances à titre personnel. Donc j'en ai eu plusieurs, j'en ai mené une jusqu'à Kaboul par la route, 9300 km, et ça s'est passé un peu bizarrement, voilà qu'une nuit je dors mal, et puis j'entends la radio sur Europe 1, pour ne pas la citer, cherche un chauffeur de poids lourd pour un convoi en Afghanistan. Comme moi j'étais à la retraite et que j'aime bien conduire et voyager, je me suis dit tiens, et puis le lendemain matin j'ai appelé la radio parce que je n'avais pas noté le numéro de téléphone et les contacts dans la nuit à 3h, je ne dors pas avec un crayon à côté de moi. Et ça s'est fait comme ça, j'ai appelé l'association qui m'a dit ok, un chauffeur de poids lourd on en a plein, mais si vous avez une ambulance, on est preneur, et puis c'est eux qui m'ont financé un voyage, donc je suis allé à Kaboul un petit peu par hasard. Mais ça fait partie du jeu et puis ça me plaît bien comme ça d'ailleurs.
Donc vous avez saisi toutes les opportunités d'aventure, mais auparavant, Vous nous avez dit que vous étiez conducteur de travaux, mais vous n'étiez pas seulement conducteur de travaux. Dans l'aimable désordre qui règne dans le bureau de Claude Philippon, j'aperçois par exemple des affiches vantant des rassemblements du LM, j'aperçois des bouteilles de plongée. Tout à l'heure en rentrant, j'ai aperçu un gros cube qui dormait dans le jardin. Donc vous êtes un aventurier né. Vous êtes un amateur de sensations fortes. Expliquez-nous un petit peu tout ça, et en particulier comment, par le biais de ces recherches de sensations fortes, vous êtes arrivé à ces contacts avec les pompiers.
Oui, c'est un peu vrai que déjà tout jeune, j'aimais voyager, puis tout m'interpellait. Oui, j'ai fait de l'ULM parce qu'un jour j'étais dans la famille en Alsace, puis j'ai vu ce petit truc en l'air là qui pétaradait. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce moustique là qui devait être à 700-800 mètres. Puis j'ai appris, on parle de ça, il y a 25-30 ans, puisque j'ai passé le brevet moi en 89. Je me suis dit, il faut que je fasse ça, quoi. Un petit truc individuel qui vole comme ça, vous rendez compte, mais c'est super. Puis je me suis investi là-dedans, j'ai passé le brevet, j'ai volé, etc. Après la moto, mon père m'avait acheté une moto quand j'avais 18 ans. Je vous dis pas la moto que c'était, une vieille Peugeot où il fallait passer les vitesses sur le côté du réservoir avec la main gauche et accélérer machin. Après j'en suis arrivé au 1200 Goldwyn et j'ai fait des grands rendez-vous. Je suis même allé jusqu'à la frontière russe avec ma femme en moto. J'ai fait à peu près tous les pays d'Europe, que ce soit du nord au sud jusqu'au Cap Nord, etc. Pas toujours en moto, hein, attention. Hein. Après ça m'a passé un petit peu parce que il y a l'âge qui est là et puis c'est très lourd comme un jet. Après la plongée, je voyais des émissions, je disais mais les types ils vont sous l'eau, mais attendez, comment ils vont respirer sous l'eau? Et là, bon, d'abord, j'ai fait un gros chantier en Algérie, puis il faut des fois des circonstances qui amènent à faire certaines choses. On faisait un port minéralier d'Arzeux, qui est très connu. Les bateaux, c'était un petit port de pêche, maintenant, il est arrivé des métaniers, pas des minéraliers, des métaniers. Et puis, je m'étais fait copain avec, comme c'était des entreprises de grands travaux hydrauliques, ça veut dire les travaux se passaient en mer. Et je m'étais fait ami avec des plongeurs, des scaphandriers ou des hommes grenouilles. Et puis, les week-ends, quand on ne savait pas quoi faire, il y en a un qui a commencé à m'initier à la plongée, d'abord à t'amener, après avec des bouteilles. Et puis, voilà comment les choses se font, sauf que moi, je suis partie prenante pour tout, quoi. Un jour, je me rappelle plus où, sur un viaduc, j'ai vu du sol élastique. J'ai dit, attendez, le fond n'est pas moi, c'est pas normal, quoi. Il a fallu qu'un jour, je sorte, quoi. En plus, j'avais vu le matin, c'est pour vous dire, s'il faut être accro quand même. Enfin, accro, j'étais pas accro de ça, mais je me suis dit, attendez, s'il y a le fond, moi, je dois pouvoir le faire, quoi. Et puis, j'avais vu le matin, les gars, avant que le public arrive, qui s'entraînaient à sauter, mais ceux qui organisaient ça, quoi. Et celui qui commandait la commande d'élastique, parce que t'es sur... Il faisait aller les gens jusqu'à... l'organisateur, il le faisait aller jusque dans l'eau. Moi, quand j'ai sauté, ils arrêtaient tous les gens au-dessus de l'eau. Moi, j'ai voulu, comme j'avais vu le matin, il me dit, mais où t'as vu ça? J'ai dit, ce matin, je suis passé, et j'ai vu que vous pouviez envoyer les gens. J'ai sauté deux fois. Quand je suis remonté dans la nacelle, je me suis dit, mais t'es fou, mon pauvre, pourquoi tu demandes ça? D'abord, le type, il m'a dit, bon, on va le faire, mais on va avertir le public, parce que les gens, sinon, ne voudront plus. Vous voyez, c'était tout ce genre de trucs-là, ULM, moto... qu'est-ce que j'ai fait de temps, je ne sais pas. Tout ce que je vois faire, il faut que je le fasse, pour me rendre compte par moi-même.
Vous avez, Claude, vous avez adopté la devise des parachutistes britanniques, prêt à tout.
Oui, un peu. Moi, si on me propose demain un truc qui m'emballe, même si c'est un peu extraordinaire, j'y vais. J'y vais, advienne ce que pourra, quoi. Alors, j'ai une devise de... comment s'appelle celui qui était dans les glaciers, là, Paul Émile Victor, là, qui dit... Alors, j'en ai fait presque ma devise. Comment l'aventure, c'est du temps volé à la mort. Mais c'est peut-être pas tout à fait faux, en définitive.
Oui, c'est une belle phrase, effectivement. Mais dites-moi, qu'est-ce qui vous a amené, alors, de l'aventure, d'abord? J'imagine que toutes ces recherches de sensations, toutes ces expériences vous ont aidé ensuite quand vous avez entrepris vos grandes expéditions humanitaires.
Oui, bien sûr que ça sert, parce qu'on est comme, on va dire, pas vulgairement, parce que pas vulgaire, on est un peu blindé, quoi. Il faut être un peu blindé. Moi, je me suis trouvé dans des situations, je ne veux pas dire où, n'importe où, mais même au Nigeria, où c'était limite, je me suis dit, là, c'est la fin du voyage, attends, il faut quand même avoir, mais je veux dire, quand ça se produit comme ça, là, moi j'étais agressé, il faut prendre partie avec la personne en face de vous, quoi. Je veux dire, moi je m'attache à le déstabiliser si je peux, quoi. Je me suis trouvé même en Inde dans des situations à Benares, à Varassi, là, Benares. Mais il faut faire avec et puis adopter une attitude, j'allais dire conforme. Moi, quand je m'en vais, je sors de chez moi ici, quand je sors de France, je ne suis plus en France. Donc je me comporte complètement différemment. Sinon, ça ne passe pas, que j'allais dire. Ça ne passe pas.
Il faut être romain dans Rome, comme disaient les Romains.
Oui, c'est un peu ça. Et puis, en fait, le fait d'amener aussi des ambulances, ça amène. Je ne ferai pas le même voyage avec un gros 4x4 rutilant de 80 000 euros. Hein, je veux dire, l'ambulance me donne une certaine. Encore qu'elles ne sont pas toutes la même couleur dans les pays que je traverse. Hein, elles sont même rarement rouges comme ça. Mais c'est quand même une ambulance, vous avez vu, avec les gyrophares.
Visibilité et puis quand même une certaine légitimité. Quoi. Quand voilà, on sait que vous faites ça pour le bien des populations. Population locale, j'imagine que ça facilite un petit peu les choses. Mais je comprends bien que dans beaucoup de situations, être entraîné à ne pas perdre son sang-froid, ça doit être essentiel.
C'est évident, je vous dis, moi je me suis trouvé dans des situations où, limite, je me suis dit, mais attends, là, t'es au bout du voyage, mon gars, là. Hein. Alors il faut avoir une petite éclaircie dans la tête ou un éclair, pareil. Et puis juger de la situation. Et moi, je me suis, trouvé entouré de plusieurs personnes qui étaient manifestement hostiles, là. Et je m'en suis sorti en m'approchant ou même attrapé par le cou le plus agressif et le plus virulent, quoi. Ça veut dire qu'il faut pouvoir le faire, hein. Et puis deux ou trois fois, c'est passé comme ça. L'équipe, ça l'a déstabilisé, quoi. Il était méchant, agressif, couteau, machin. Je lui ai dit, attends-toi, si je t'attrape, limite, je vais te faire une bise, quoi. Hein, mais j'en suis pas là encore, hein, mais je veux dire, en vertu de quoi je voyage seul. Toujours tout seul.
J'allais vous poser la question, est-ce que vous faites tout ça tout seul ou est-ce que vous êtes entouré? Est-ce que votre association, qui s'appelle Entraide Internationale, comprend des gens qui peuvent vous aider sur le plan de la logistique, sur le plan de l'organisation des voyages?
Non, pas du tout, parce que c'est une petite association très restreinte, qui n'a même pas de fonds, parce que moi je faisais des photos aériennes que je vendais pour... j'avais le droit en qualité de... parce que j'ai une association, je peux faire des factures, faire des photos, et puis je voyage seul, parce que beaucoup de fois on m'a dit « Ah, mais moi je partirais bien avec toi en Afrique, tout ça », mais je veux pas, parce que d'abord ça me dérange pas du tout de voyager seul, pas du tout, et puis je gère à ma façon, si j'ai envie de tourner à droite, je tourne à droite, même si on me dit qu'il faudrait tourner à gauche, moi si j'ai envie de tourner à droite, je tourne à droite, si... j'ai envie de m'arrêter pour pêcher, même si ça ne mord pas, j'ai pas envie que quelqu'un me tape dans le dos en me disant « Regarde, ça ne mord pas, viens, on se casse. » Non, eh bien, ça ne fait rien, ça mordra plus tard. C'est une image, ce n'est pas ça, mais...
Donc vous êtes un individualiste et en même temps, vous avez eu l'habitude dans votre vie de prendre vos décisions tout seul.
Oui, déjà par mon métier, c'était des décisions que j'en prenais tous les jours déjà. Donc il faut avoir un peu le tempérament pour ça, quoi, je veux dire. Et puis... moi, je suis allé en Inde quand il y a eu le tsunami, j'ai vu tellement de choses. J'ai vécu des choses, de mes propres yeux, comme on dit là. Hein. Alors, ça vous incite un peu de dire, si je pouvais faire un peu quelque chose à mon niveau. J'ai tout petit, je me considère comme le petit couteau dans l'océan, moi, mais j'en fais pas une affaire, ni rien du tout. D'abord, c'est pas le but de l'opération. Bon, j'aime bien, j'ai fait un petit lexique, c'est plutôt pour faire voir mes petits-enfants, les enfants, parce que souvent, ils savent pas ce que j'ai fait, ni ce que j'ai vécu pendant les voyages. Donc, ils apprendront par ce que vous voyez là, ce résumé de mes trucs-là, voilà. Mais maintenant, j'ai des problèmes avec les ambulances parce que, les associations ne sont plus tellement aidées. L'Afrique, ça devient très difficile. Je devais en amener une en Guinée-Conakry. J'avais ciblé la Guinée-Conakry parce que j'ai un ami, le docteur Yattara, qui est de Guinée-Conakry, m'avait dit « Ah, ça serait bien que... » Mais c'était simplement une formulée, simplement un truc comme ça. Et puis, quand j'ai dû partir l'année dernière, la fièvre Ebola s'est déclarée. Donc, entre la fièvre et Ebola et les risques du trajet, l'ambulance est restée devant ma porte. Il y a des gens qui se demandent à Chasse-Vinel pourquoi les ambulances sont devant la porte. Ça devient très difficile. En plus, certains pays où j'aurais pu aller, maintenant en Mauritanie ou voire au Maroc, ils ont mis des limites. C'est-à-dire que les véhicules, il ne faut pas qu'ils aient plus de 10 ans. Sinon, ils ne peuvent plus rentrer sur le territoire. Donc, ça exclut un tas de pays. En vertu de quoi, je me suis en train de cibler maintenant l'Algérie. Parce qu'ils n'ont pas ces contraintes-là. Et en plus, ils ne sont pas tellement... Maintenant, c'est un mot à la mode, impacté par l'humanitaire à l'Algérie, les gens. Seulement, moi, je suis resté 4 ans... Là, je n'étais pas conducteur de travaux, mais sur un gros chantier, mais j'ai fait des études de conducteur de travaux en partie là-bas. Et j'aimerais joindre l'utile à l'agréable, c'est-à-dire revenir dans la ville où j'étais, à Arzeux. Si je pouvais amener l'ambulance et en même temps revoir où on était il y a des années de ça, J'essaye de... En fait, quand je fais ça, je ne le cache pas, je joins l'utile à l'agréable. Moi, je vous amène une ambulance, je me balade.
Ça, je comprends, je comprends. Donc là, vous aimeriez aller à la recherche de votre passé, tout en rendant service aux Algériens de la région d'Arzeux, le grand port méthanier de la côte algérienne. Alors, malgré tout, cette expérience prolongée des pays où l'action humanitaire s'impose, qu'est-ce qu'elle vous a apporté? Je veux dire, vous avez été témoin, comme vous l'avez dit, de spectacles ou de scènes qui sont pénibles, mais est-ce que vous avez l'impression que ces pays, avec l'aide qu'on leur apporte, mais aussi avec leurs propres moyens, sont en train de s'en sortir? Est-ce que vous avez constaté un progrès au fil de vos voyages?
Oui, ça dépend bien sûr de quel pays on parle. Moi, j'étais en Afrique les premières fois il y a 30 ans, je traversais le Sahara. On en voit qui évolue beaucoup, très bien, par les réseaux routiers, par les constructions. Bon, je vais citer un pays tout proche qui est le Maroc, qui, je ne sais pas comment ni pourquoi, enfin, tire son épingle du jeu, mais c'est peut-être la proximité avec l'Europe qui fait que c'est plus facile. Et puis, bon, moi, je ne fais pas de géopolitique ni rien du tout. Mais d'autres stagnent, pourtant, ils ont des ressources et des trucs comme ça, mais ça, c'est bien connu. On rentre dans un débat là qui est un petit peu... Il y a des classes très hautes, et puis à côté de ça, alors que ceux qui sont tout à fait en bas pourraient avoir des moyens un peu plus raisonnables, quoi. C'est presque valable aussi en France, de toute façon, alors je ne sais pas pourquoi. Mais c'est vrai que de voyager comme ça, moi, ça m'a un petit peu blindé, et puis voilà. Moi, je vais surtout en Afrique, et effectivement, je vois qu'il y a une évolution, mais elle ne me paraît pas aussi rapide qu'elle pourrait l'être. Moi, je suis allé, je vous dis, il y a plus de 30 ans, dans le Sahara, au Mali, au Burkina, je ne me rappelle plus, au Togo. Ça évolue, bien sûr que ça évolue, mais il ne me semble pas aussi vite que ça pourrait, parce que c'est vrai qu'ils sont aidés, qu'ils ont des ressources, qu'ils ont peut-être mal exploitées. Il me semble, maintenant, c'est mon avis, parce que moi, quand je suis sur place dans ces pays comme ça, je ne rentre pas, comment dirais-je, en contact avec les autorités, ni rien. Donc, c'est ma vision personnelle qui est peut-être complètement fausse, en définitive, quoi. Hein,
oui, pas, hein. Là, il ne faut quand même pas pêcher par trop de modestie, parce que vous êtes un observateur averti, aguerri, et vous avez quand même une expérience prolongée de ces pays. Qu'est-ce qui, à votre sens, peut expliquer la stagnation relative d'un certain nombre d'entre eux? Parce que si on prend les pays africains, tout le monde s'accorde à dire qu'une majorité d'entre eux, aujourd'hui, ont un taux de croissance qui est relativement élevé et qu'ils avancent. Mais malgré tout, il y a toujours quand même un besoin, une nécessité d'aider au moins une fraction importante de la population qui se trouve dans le dénuement. Alors comment expliquez-vous ça avec l'expérience que vous avez ?
Comme je vous dis précédemment, je ne suis pas qualifié ni très bien placé malgré que je sois allé sur place. Comment je l'explique ? Je ne sais pas, c'est un continent pourtant. Il faut reconnaître le continent africain, que j'aime bien. Moi, j'aime bien ce continent africain parce que nature, je l'aimais bien. J'ai traversé un nombre de grandes villes. C'est pas, les grandes villes ne m'intéressent pas, mais le continent profond, là, c'est-à-dire dans les villages, dans la brousse. Ah, moi, j'adore. Ah, là, moi, j'adore ça parce que les gens sont pas pollués encore, il faut dire. Ils n'ont peut-être pas la lumière et encore. Maintenant, il y a des panneaux solaires, il y a des générateurs, des trucs. Mais quand j'y allais, il y a des années de ça, j'ai traversé des villages. Moi. Je ne savais même pas que j'étais dans un village. C'était des petites bougies, des lampes à pétrole, des trucs comme ça. Bon, donc, ça a évolué un petit peu puisque maintenant, je vois quand j'y vais la nuit, j'évite de rouler la nuit, mais des fois pour arriver à un village, c'est hors de question de dormir en dehors du village, hein. Il faut aller voir le chef du village, lui faire des salamalek, et puis il vous prête soit une hutte, soit vous êtes en sécurité, chose que je ne faisais pas avant. Je dormais un petit peu n'importe où, et plusieurs fois on m'a dit, t'as eu de la chance de te réveiller ce matin, toi, là où tu étais, on sait où tu étais, enfin bref, des anecdotes comme ça, et quand même ce continent, il évolue. On ne peut pas dire qu'il stagne et puis même qu'il recule avec tous les progrès qu'il y a maintenant. Quand je suis là-bas, je suis effaré de voir des gens avec un téléphone portable dans des endroits où je me dis, mais attends, il n'y a pas un poteau, il n'y a pas la lumière, il n'y a rien du tout, et le gars est en train de téléphoner là. Donc il évolue. C'est pas le téléphone qui change la vie. Si, ça change un peu la vie des gens parce qu'ils peuvent communiquer entre eux, tout ça. Mais bon, il avance ce pays, mais peut-être pas aussi vite qu'il pourrait par rapport aux richesses que tout le monde sait qu'il y a ou dans le sol ou pas dans l'air, mais au moins dans le sol ou sur le sol. Seulement, bon, il y a des rois du pétrole qu'on appelle, hein, ça, qui, qui eux ont des yachts, des avions et des bagnoles de collection et des Ferrari, et puis le peuple, celui qui creuse pour trouver une pépite d'or, et la canale, quoi. Mais ça, c'est bien connu, j'ai rien inventé, c'est pas moi.
Face au, à ce qu'on a appelé longtemps le problème de la gouvernance de ces pays, qui fait que tout ne va pas aussi bien que ça pourrait pour tout le monde.
Mais c'est exactement ça. Enfin, moi, c'est le sentiment que... Mais j'insiste, moi, que je vais en Afrique, je ne m'implique pas dans ce genre de trucs-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contact humain avec des gens basiques, quoi, je veux dire. Hein. Je vais pas dans les... Si, je vais dans les ambassades pour signaler mon passage, parfois, ou des trucs comme ça. En Noirceau, je m'étais arrêté dans un petit restaurant pour manger, puis j'ai trouvé sur mon pare-brise de l'ambulance, là, un mot de l'ambassade qui me demandait de me présenter. Ils avaient vu la voiture qui était matriculée en France, c'était à Noirceau, ça. Il faut dire que l'ambassade avait été attaquée quelques jours avant. Une voiture blindée avait foncé dans la porte, il n'y avait pas eu de victimes graves, mais enfin, c'était un acte de terrorisme, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et je trouvais un papier, en sortant du restaurant, je trouvais un papier prière de vous présenter à l'ambassade. Et moi, j'allais à ce moment-là, j'allais au Togo avec une ambulance, et je me suis donc rendu à l'ambassade, puisqu'on m'y invitait à y aller, c'était signé du consul ou de l'ambassadeur. C'est pas l'ambassadeur qui a pris la peine de m'écrire mon manuscrit sur mon pare-brise. Mais je me suis rendu là et il a fallu que je signe une décharge parce qu'ils m'ont dit vous pouvez pas continuer. En fait, je suis rentré dans les bureaux, on m'a présenté consul ou vice-consul, je me souviens plus. Il me dit monsieur Philippon, vous allez où? Je me suis dit je vais au Togo là. Il me dit vous rendez compte, vous êtes pas arrivé encore, vous êtes qu'à Noirceau là. Hein, faut traverser encore toute l'Afrique de l'Ouest là. Je dis oui, je sais, mais je connais déjà un peu. C'est vrai que je connaissais déjà un peu, j'étais déjà descendu par là-bas, le Ghana, le Côte d'Ivoire. Je suis allé au Bénin, au Nigeria, enfin bref. Il me dit, vous ne pouvez pas continuer. J'ai dit, mais il faut que je continue. Moi, j'ai des affaires et l'ambulance, on l'attend là-bas. Elle est destinée. Je ne me balade pas, j'amène une ambulance. Et vous vous rendez compte, c'est très dangereux, tout ça. J'ai dit, je sais que c'est dangereux. J'étais même sur place, c'est déjà en Mauritanie, quand ils ont, comment on peut appeler ça, trucidé les quatre Français, là, bêtement. Je suis même allé sur place, là où on les a exterminés, quoi. Je suis même allé sur place. J'ai même mis... Je voulais mettre des fleurs parce que c'était des compatriotes qui étaient sur place quand ça s'est passé. Et donc, ils m'ont fait signer, là, à Noirceau, une décharge, comme quoi je prenais la responsabilité de partir tout seul. Ben, je suis parti, puis je suis allé, et je suis revenu.
De manière à ce qu'il soit dégagé de toute responsabilité, voilà, si vous arrivez à quelque
c'était,
chose.
C'était bon, ça, mais en fait, ils m'ont recommandé de ne pas y aller quand même. Quoi, mais... Bon, moi, je pars du principe, il ne faut pas être au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai rien inventé, ça. Hein.
En dehors de l'Afrique, quels sont les pays qui vous ont vraiment impressionné et où vous avez vraiment eu la sensation de faire le bien en convoyant vos véhicules?
Alors là, c'est celui qui m'a, le pays qui m'a particulièrement impressionné, c'est l'Inde, quoi. Parce que je suis allé en Inde quand il y a eu le tsunami, là. Donc je ne suis pas allé avec une ambulance, hein. Mais j'avais récolté des fonds ici, à Périgueux, en fait autour, là, des gens qui m'avaient donné un peu d'argent. Et je suis arrivé là-bas dans un pays dévasté. Et une chose. Alors je suis allé au consulat de France à Pondichéry parce qu'en fait j'avais de l'argent sur moi, un peu d'argent, pas de grosses sommes, hein. Et je savais pas cibler l'endroit précis où il fallait aller parce que j'ai vu des camps qui étaient organisés par je me rappelle plus,
oui, les grandes ONG, et puis l'ONU,
les noms me viennent pas là, hein. Il y avait ces camps là où les gens voulaient même pas aller dedans parce que c'était en plein soleil, pourtant les gens se sont investis mais vis-à-vis du pognon. Et donc je suis allé en Inde, tout à fait dans le sud, en bas, vers Pondichéry, et là j'ai demandé rendez-vous, comment dirais-je, c'est un consul qui m'a reçu, là, j'ai même une attestation ici, là, je pourrais vous faire voir tout à l'heure. Ça a mis 2 jours pour qu'il me reçoive, et paradoxalement, quand il m'a eu reçu, il se trouve qu'il faisait lui aussi l'ULM, et on partait plus. On s'est branché sur l'ULM, il suffit qu'il y ait un contact particulier avec de quelque chose, il aurait joué au ping-pong, et moi au ping-pong, on serait resté 1 heure pareil. Enfin, bref, c'est pas, vous faites de l'ULM, où c'est que vous habitez à Périgueux? Ah, mais je connais Périgueux, j'ai même volé à Périgueux. Eh bien, si vous venez chez moi, c'est parti sur le truc, quoi. Qu'est-ce qui vous amène? Voilà, j'ai un peu d'argent, mais je sais pas cibler l'endroit précis, je vais me balader n'importe où. Et puis, il me dit, bon, puisque c'est comme ça, je lui dis, bon, demain, je vous donne un chauffeur et un véhicule, et ce chauffeur vous amènera. Et bien, ce monsieur-là, il m'a amené dans un village dévasté, il n'y avait plus rien. L'eau était montée à hauteur des feuilles de palmiers qui étaient brûlées par l'eau de mer, à hauteur des palmiers. Hein. Bon, c'est peut-être pas des palmiers géants, mais des palmiers quand même. Donc ça veut dire qu'il ne restait plus rien. Il se trouvait une petite colline à côté, les gens s'étaient réfugiés sur une petite colline. Et là, j'ai donné de l'argent au chef de village, on peut appeler ça comme ça, lequel m'a dit, quand j'ai donné l'argent, il m'a fait comprendre par l'intermédiaire du chauffeur, hein, parce que moi, je ne comprends pas. Bon, il me dit, monsieur Philippon, avec cet argent-là, on va commencer par acheter une tonne de riz. J'ai dit, une tonne de riz, vous me parlez de 10 kilos, ou d'un quinta, ou de quoi il me parle. On va acheter une tonne de riz. Et s'il nous reste suffisamment, on va acheter avec le reste une vache pour avoir du lait pour les enfants. Écoutez, quand vous allez quelque part, vous faites l'humanitaire et qu'on vous dit ça, Ah, c'est bien, j'ai dit, attends, si ça se reproduit, moi je reviens, il n'y a pas de doute, quoi. Bon, je ne souhaite pas que ça se reproduise, pour vous dire. Parce que l'Inde, pour voyager en Inde, pour le faire, moi j'étais parti de sac à dos, là. J'ai fait 9000 km en Inde à sac à dos, dans les trains de 4e classe, parce que ça existe, 4e classe, ça veut dire sur les toits. Hein. Donc, quand on vous dit ça, c'est comme là, j'ai une attestation du maire de Wadnaga. Wadnaga, ça veut dire... ruisseau de la Chamelle, à 80 ou 100 km de Nouakchott. Voilà, j'ai donné une ambulance au maire de cette commune, là, par le canal du Rotary Club, et j'ai reçu, à mon retour ici, un email du maire, là, que j'ai quelque part, là, on pourra le voir tout à l'heure. Claude, on te remercie pour l'ambulance que nous a gentiment convoyé, et je peux te dire qu'à ce jour, il a déjà sauvé plein de vies. Et je veux bien le croire. Pourquoi ? Parce que ce maire, là, de la commune, quand je l'ai vu, il m'a dit... Jusqu'à présent, c'est un village relativement important, en plein désert, en plein Sahara. Mais alors, des maisons dans le sable, là, avec la couleur du... C'est drôle d'avoir des villages comme ça. Il y a des habitants là, on se demande de quoi ils vivent, parce qu'il y a du sable partout autour. Et il m'a dit, moi, quand un gosse ici ou une femme se blesse, je prends ma voiture particulière, là. Et quand j'arrive à Nouakchott, dans la ville, qui est encombrée, comme toutes les...
Capitale africaine.
À l'africaine, les grandes villes, tout le monde se réunit. Il me dit, j'ai beau klaxonner, j'ai beau faire ce que je veux, personne ne se gare, rien du tout. Même les flics m'arrêtent, c'est-à-dire que quand ils s'aperçoivent que j'ai une personne qui saigne derrière chez moi, ils ne m'ouvrent pas la route parce qu'ils n'ont rien pour le faire, mais ils me laissent passer. Etc. Il me dit, depuis que j'ai l'ambulance, quand j'arrive à Nouakchott, je mets les klaxons et j'arrive à l'hôpital 2 heures plus tôt que ce que j'aurais fait avec ma voiture. Moi, quand on me dit ça, je me dis, si j'en ai une autre, mon gars, je te l'amène, hein, à toi ou au village voisin, hein, j'ai pas de doute, quoi.
Claude, merci pour cette magnifique conclusion. Le temps s'écoule, on vous écouterait encore longtemps. Merci pour la fraîcheur et l'enthousiasme de votre témoignage.
Et revoilà la marmite, gonflée à la dynamite. Le voilà qui revient en frappant sur sa boîte de fer blanc. Et l'après-midi entier.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.